Bonjour, moi c'est Juliette, j'ai 16 ans et le digital c'est pour moi un formidable moyen de s'engager pour les autres et pour la planète, même si ça peut avoir ses limites.
L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie.
C'est vraiment bien, hein ?
Vous pourrez appeler partout, de n'importe où.
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
C'est pas génial, ça ?
Des dépendances, comme la drogue, c'est dépendant à ça.
Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon.
Alors là, mon père, il va pas en revenir.
Ils ont entre 7 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Philosophie. Alors, on est toujours dans une situation sanitaire un peu particulière et aujourd'hui, Marilyn a dû remplacer un de ses intervenants au pied levé qui avait le Covid. Donc, elle a tendu son micro à mon associé, Thomas, avec qui je partage cette émission. Salut Thomas.
Bonjour Solène et bonjour Juliette.
Salut.
Alors Juliette, on est super contente de te recevoir. Ça fait quelques mois qu'on a discuté ensemble de tes différents engagements et on a très très envie d'en savoir plus.
Ah, parfait.
Alors Juliette, quand on s'est parlé, tu venais avec plusieurs autres copains-copines de créer une pétition. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Avec trois amis, Hugo, Oriane et Lola, on a mis en ligne une pétition contre les violences policières suite à l'agression de Michel Zecler le 21 novembre 2020.
Le producteur.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors comment ça s'est passé ?
On a tous vu les images sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui a déclenché le fait qu'on veuille s'engager pour cette cause-là. En fait, ensuite, j'ai lu un texte sur les réseaux sociaux d'une activiste qui s'appelle Camille Etienne, une activiste plutôt écolo, mais qui là avait rédigé un texte qui s'appelait « La ligne rouge » et qui posait la question de où est-ce qu'on se fixe la limite, une limite collective à ne pas dépasser. Et ça s'appliquait à la question des violences policières, où est-ce qu'on s'arrête finalement, où est-ce qu'on se dit on ne cautionne plus ça. Et puis elle comparait avec le Covid par exemple, où on avait décidé de pas faire mourir les gens, ce qui est plutôt normal, et donc on avait cloué tous les avions au sol, on s'était confiné chez nous pour ne pas dépasser cette ligne rouge là qu'on s'était fixée. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on se fixe comme ligne rouge concernant les violences policières? Et c'est ça qui m'a réveillée, parce que c'était très bien écrit. Et en fait, je l'ai mis dans ma story, et j'ai mon amie Lola qui m'a répondu en disant « Il faut trop qu'on fasse un truc ». Et du coup, voilà, on a lancé la pétition.
C'est pas évident comme sujet à traiter, enfin, c'est assez complexe. Effectivement, il y a cette ligne rouge où, évidemment, on ne peut que être contre les violences. Et en même temps, c'est pas les bons et les méchants d'un côté ou de l'autre, quelle que soit sa pensée.
Ah bah oui, et puis nous, on est jeunes, on avait tous pas plus de 17 ans. Et donc en fait, on a appris sur le sujet en faisant les pétitions. Et puis aussi, ça a permis des débats au sein de ma famille, il y en a eu beaucoup.
Oui, j'allais te demander comment on convainc ses parents de...
Alors mes parents, ils n'étaient pas... En plus, ils n'ont pas vraiment les mêmes opinions politiques que moi. Et donc c'était très houleux, on va dire. Mais finalement, comme ça, j'ai plus compris... Voilà, j'ai pu me confronter à un avis qui était pas le même que le mien et ça m'a permis de d'y comprendre plus sur cette cause.
Et tes parents, ils étaient inquiets que tu puisses te positionner sur ce sujet ?
Oui, ils étaient inquiets. Et puis surtout, même si nous, on est des jeunes qui faisons pas partie d'un parti politique, enfin, on n'est pas... c'est politique de mettre une pétition en ligne, mais nous, on n'a pas d'orientation politique, on n'est pas militant dans un parti. Et c'est vrai que la question des violences policières, c'est beaucoup repris par la gauche, voire l'extrême gauche. Et donc, c'est de ça que mes parents avaient peur aussi, c'est qu'on soit politisé et catégorisé dans une case, en fait.
Et il y a eu des tentatives de reprise ?
Non, par contre, en dessous des dans les commentaires de notre pétition, on avait beaucoup de gens pro-Mélenchon, tout ça. Voilà.
Tu disais, on s'est un peu bagarré avec mes parents parce que tu faisais face à une opinion qui n'était pas la même que la tienne. Et souvent, sur beaucoup de sujets, on a tendance à vouloir écarter ces opinions contraires plutôt que les affronter et de faire grandir chacun de part et d'autre. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, dont finalement, après coup, tu dis que c'était louable ?
Bah, c'est sûr que ça nous a permis de réfléchir et de se poser, parce que c'est sûr que quand on est jeune, on a une idée, on fonce, quoi. Et donc, c'est vrai que parfois, pas avoir une opposition formelle, mais juste une discussion, ouais, ça permet d'avancer.
Et eux, ils ont avancé ?
Je sais pas. Il faudrait leur demander.
Faut qu'on leur demande.
Et alors, ce qu'on disait en introduction, c'est que cette pétition, elle a été possible et elle a pris assez d'ampleur.
Ouais.
Est-ce que vous avez récolté combien de signatures ?
Plus de 20 000.
Plus de 20 000 signatures ?
Ouais.
Parce que vous avez utilisé le digital ?
Oui, mais c'est pas vraiment nous directement qui l'avons fait, parce qu'on a essayé sur Instagram et tout. C'est vrai qu'au début, voilà, quand on lance une pétition, on a zéro signature. Et donc, pour la faire monter, comme on n'est pas connu, bah, au début, on demande aux amis, tout ça. Moi, j'avais fait un post sur mon compte Insta en disant « Allez signer ma pétition et tout ».
Mais tu n'as pas 100K followers ?
Non, voilà. Non, non. Non, c'était juste des amis proches. Et donc, finalement, au bout de 200 signatures, on a été repérés par une manager de Change.org qui nous a appelés et qui nous a dit « Votre pétition, elle a du potentiel. J'envoie des mails vendredi. » C'était un mardi qu'on a reçu l'appel. Vendredi, j'envoie les mails et on voit si ça marche. Et du coup, le vendredi, ça a monté en flèche, quoi. Et on se rendait pas vraiment compte. Enfin, moi, je me rends pas vraiment compte de 20 000 signatures, ce que ça représente, quoi.
Sur cette notion d'engagement et du coup de politique, on a beaucoup parlé de ce sujet avec le taux d'abstention record, où beaucoup de jeunes aussi ne se sont pas déplacés. Alors, tu ne t'es pas déplacé, mais c'est normal,
ouais.
Tu n'es pas encore en âge de voter. Mais typiquement, on est demain, après-demain, donc dans 2 ans, tu as l'occasion de pouvoir voter, tu y vas.
Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais après, je sais pas si c'est forcément que grâce au digital. C'est sûr que ça peut aider parce que c'est un grand moyen d'influence, surtout chez les jeunes. Donc c'est sûr que ça peut aider à aller voter ou au contraire à ne pas aller voter aussi. Si des gens sur Internet disent qu'il faut pas aller voter. Mais c'est aussi une question d'éducation, je pense, et même à l'école, tout ça. Enfin, c'est pas que le digital qui joue un rôle là-dedans.
Mais le digital peut influencer, par contre.
Oui, influencer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tout dépend de où est-ce que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux.
Je sais que tu as Netflix. Je sais aussi que tu as vu ce superbe documentaire derrière nos écrans de fumée. J'imagine que tu vois la transition vers laquelle je veux aller par rapport à ce que tu nous disais.
Oui, les bulles cognitives. Oui, donc c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est aussi dangereux dans le sens où chaque personne a un filtre en fait avec le monde via les réseaux sociaux, puisque les algorithmes nous proposent toujours ce qu'on aime. Donc finalement, moi sur mon Instagram, j'ai que de l'écologie et du féminisme parce que je regarde toujours ça. Et du coup, j'ai l'impression que le monde entier est écolo et féministe, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Et ça peut... Enfin, moi, j'ai peur que plus tard, on soit tous enfermés dans nos propres visions et qu'on puisse plus discuter.
Et comment on fait justement pour...
Bah, il faut essayer de ne pas dépendre que des réseaux sociaux et de mettre aussi en avant les discussions qu'on a entre amis, dans la famille. Voilà, discuter, moi, je trouve que c'est essentiel.
tu parles de beaux combats importants, celui du féminisme et celui de l'écologie. Si on reste dans cette réflexion des bulles cognitives et souvent aussi de l'émotion poussée à l'extrême, est-ce qu'on n'a pas aussi, à travers ces réseaux sociaux, des combats qui peuvent être féministes, écologie ou n'importe quel autre combat, qui sont du coup de plus en plus radicales, qui se radicalisent? Est-ce que tu y assistes? Est-ce que tu as ce sentiment, toi, en ayant vu un docu comme celui-ci, que malgré tout, toi aussi, tu peux être poussé?
Oui. Et puis, bon, après, moi, j'arrive à faire la part des choses aussi, à modérer ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que si jamais on like toujours des contenus de plus en plus écolo, mais de plus en plus vraiment radical, et ben on va nous proposer toujours de plus en plus ça, donc on va être de plus en plus radical. En fait, c'est un cercle dans lequel il faut essayer de pas tomber.
Qui veut dire qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de lutter contre la radicalité, quelle qu'elle soit, c'est de ne pas cliquer. Il est là, le pouvoir.
Ben, c'est ça aussi, oui, c'est sûr. Et puis, c'est aussi de discuter. Moi, je trouve.
Alors, on parlait justement d'écologie. Je crois que tu as un autre engagement.
Oui. Celui-là, il est plus récent que la pétition. Cet été, je pars à vélo avec Coriane.
Donc la même de la pétition.
Oui.
Ça crée des liens.
Ouais, j'ai des amis comme ça aussi folles que moi. Mais donc, on part à vélo de Bordeaux à Biarritz. Pour faire des mini-reportages sur la protection de l'océan, qui est la cause qui me tient le plus à cœur.
Pourquoi ?
Parce que j'habite près de la mer. Moi, j'habite à Boulogne-sur-Mer, petite ville des Hauts-de-France. Et donc, la mer, je vis à côté. Et finalement, c'est l'endroit où je me sens le plus moi et le plus chez moi. Et donc, quand on aime quelque chose, on a envie de le protéger. Et c'est pour ça que ma cause de prédilection, c'est la protection des océans.
Pourquoi il faut le protéger? Pourquoi il faut les protéger?
On le voit. Enfin, moi, je le vois déjà sur les plages avec beaucoup de déchets. Je sais quelque chose de visuel, mais je connais aussi, grâce notamment à Internet, aux réseaux sociaux, aux médias, tout ce qui se passe en dessous de la surface et qui est aussi extrêmement...
Impacté.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je sais par exemple qu'il y a la moitié de la biodiversité marine qui a disparu en 50 ans. Et moi, ça me paraît tellement énorme. C'est comme si on voyait un aquarium et qu'on disait la moitié, ça n'existe plus. Et ça, c'est un chiffre qui m'a bouleversée. Ouais.
Et du coup, ce que vous allez faire, c'est de la sensibilisation ?
Oui, et puis c'est aussi de l'apprentissage pour nous. Je pense qu'il y a deux faces du projet, c'est qu'on a envie d'aller voir sur le terrain, de rencontrer des gens. Et puis, c'est aussi formateur de parler vraiment avec des gens et puis d'oser aller les voir, d'oser appeler pour dire « Ah, est-ce qu'on pourrait venir cet été vous voir ?» et tout. Donc, c'est un apprentissage de tous les instants, ce projet. Et puis, ça va faire apprendre aussi aux gens. Donc, ouais, c'est de la sensibilisation, mais c'est aussi de l'apprentissage.
Il s'appelle comment, ce projet ?
Enquête de vague.
Enquête de vague.
Et oui.
Et où vous allez diffuser ces documentaires ?
Justement, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On va essayer d'être le plus accessible possible.
Comment tu vas donner de l'écho, le plus d'écho possible à ces contenus ?
On essaye déjà, moi, au niveau local, j'essaye de faire parler de mon projet dans la presse. Donc déjà au niveau local, on a déjà eu un article dans la semaine dans Le Polonais, tout ça. Et après, c'est vrai qu'on essaye, oui, parce que les réseaux sociaux, quand même, c'est un algorithme qui fait qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux pour être visible.
Oui, il faut toujours être là. Et on peut pas poster que de manière sporadique.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, on sait ça, mais bon, après, avec Oriane, on a une vie de lycéenne, on a passé notre bac, donc on n'a pas eu le temps, vraiment, de se mettre à fond sur les réseaux sociaux. Puis, c'est quand même très fatigant de devoir toujours y penser. Mais on va essayer de le faire pour avoir encore plus de visibilité.
Qui tu vas aller chercher ? Vous savez déjà qui vous allez interroger ?
Oui, on a déjà des reportages de programmés ou alors on a déjà des contacts. C'est souvent des associations de protection de l'océan. Donc on a Surfrider qu'on aimerait beaucoup aller voir, qui nous répondent pas vraiment, mais on va essayer.
C'est le moment de leur passer un appel.
Et oui, voilà, c'est ça. Après, on a des associations pour les cétacés, parce qu'en côte atlantique, il y a beaucoup de dauphins, tout ça. Donc, pour l'observation des cétacés, ça s'appelle Itsas Arima, par exemple. Et puis, on va essayer aussi d'avoir d'autres points de vue, parce que les associations, c'est un beau point de vue, mais on n'a pas la vision globale des choses. Donc, on aimerait beaucoup interroger un scientifique. Il y a des regroupements des communautés de scientifiques qu'on a contactés et qui nous répondent. Donc, on va sûrement aller en voir un. Ensuite, il y a un organisme de l'État qui s'appelle l'Office français de la biodiversité. Et eux, on aimerait beaucoup aller voir, parce que c'est quelque chose de l'État, en fait.
Institutionnel.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs actions. On aimerait... Donc là, on va aller voir sur le bassin d'Arcachon, normalement. On va aller voir aussi des gens moins avec des grands noms. Par exemple, on s'est dit d'aller voir un poste de secours pour parler de la qualité de l'eau, par exemple, sur les plages. Un plongeur pour voir... pour savoir qu'est-ce qu'il voit, lui, sous la mer...
Qu'est-ce qui ne voit plus.
Oui, voilà aussi. Et puis un pêcheur aussi, on va essayer d'avoir un pêcheur.
Ça va être chargé cette semaine.
Ah ouais.
Il manque un pollueur pour avoir...
si on a le temps, on fera des micro-trottoirs avec des touristes, peut-être. Ça pourrait être une idée. Mais ouais, on a plein d'idées. Bon, après, il faut qu'on pédale quand même, parce qu'on a...
Il faut arriver au bout.
Oui, voilà.
Et je crois que vous avez été repéré aussi par la Commission européenne, non?
Oui, c'est ça. En fait, on s'est lancé dans un projet et on a eu plein d'opportunités qui nous sont venues par la suite. Et donc ça, c'est vraiment ce que je trouve extraordinaire. Et donc, moi, à Boulogne-sur-Mer, il y a le Centre National de la Mer qui s'appelle Nausicaa, à qui j'ai envoyé un mail au responsable communication pour parler de mon projet. Et cette responsable a transmis le mail à une initiative de la Commission européenne qui s'appelle Youth for Ocean et qui est basée aussi à Nausicaa.
Youth, yes. La jeunesse pour...
C'est ça, la jeunesse pour l'océan. Et donc c'est un organisme de la Commission européenne. Donc c'est directement relié. Et donc on s'est retrouvés sur le site de la Commission européenne. Si vous tapez notre nom, on y est. Et donc, eux, ils ont un rôle de conseil. Donc, ils nous aident, voilà. Et ils ont aussi beaucoup de contacts. Donc, ça nous aide beaucoup, même pour contacter les associations. Ils nous donnent des contacts. Ça nous donne un poids aussi quand on parle de notre projet. On peut dire, on est accrédité par la Commission européenne, ce qui est tout de même très classe.
Une bonne porte d'entrée.
Ouais, voilà.
Donc finalement, un peu d'audace, un peu de digital,
ouais.
Et ça ouvre des portes.
Ça ouvre beaucoup de portes, ouais, c'est sûr, et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense.
Tu sens la jeunesse aujourd'hui, là on parle en tant que vieux, mais plus engagée que la jeunesse qu'on pouvait être nous à notre époque, ou finalement il y en a aussi qui ne font strictement rien.
Bah, je sais pas, après ça dépend des environnements où on est, et puis j'ai pas connu votre jeunesse à vous aussi, donc je sais pas trop.
Ça c'est une vraie réponse.
Mais c'est sûr que je me rends compte, par exemple, alors j'ai un exemple très concret qui peut être un peu tabou, mais moi je ne m'épile pas sur les jambes parce que je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux justement que c'était possible de pas s'épiler et que
t'es pas obligé d'entrer dans une norme.
C'est ça. Et en fait, je vois que mes parents trouvent ça très bizarre. Ils me disent mais qu'est-ce que tu fais? C'est très masculin, c'est pas beau. Mais par contre, donc voilà, les adultes souvent ont un regard sur mes jambes qui est un peu culpabilisant et que j'aime pas trop. Mais pourtant, avec les jeunes de mon âge, je n'ai eu jamais aucune remarque, aucun regard bizarre, ou alors je l'ai pas vu, mais vraiment pas du tout, même avec les garçons. Et puis quand je parle avec mes copines, que je dis oh, mes parents ils veulent encore que je m'épile, mes copines elles me disent non mais tu fais ce que tu veux, hein, vraiment, hein. Donc j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, qu'on est beaucoup plus éveillé sur ces sujets là
est-ce que tu dirais qu'il y a du coup, c'est le côté non jugement qui est plus présent aujourd'hui.
Oui, et puis surtout, c'est un côté aussi que dès qu'on fait une remarque entre jeunes, quand on est dans un groupe de jeunes, s'il y en a un qui fait une remarque, comme on est tous un petit peu éveillés sur ces sujets-là, en tout cas autour de moi, c'est comme ça que je le vois, il se fait toujours réprimander, en fait. Donc on n'est plus vraiment dans l'impunité de dire ce qu'on veut ou de faire des remarques déplacées, puisqu'on est tous un petit peu éveillés sur le sujet.
Le dilemme algorithmique.
Tu viens de passer une partie de ton bac.
Oui.
Alors, c'est pas une épreuve du bac, mais c'est le dilemme algorithmique de philosophie. Un dilemme d'ailleurs dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est des dilemmes sur lesquels se penchent nombre de personnes qui s'intéressent aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, avec cet exemple de la voiture autonome.
Mmh.
Et la question est la suivante. Tu es dans ta voiture autonome, tu la codes, et elle va tout droit, elle va vite. Et à un moment, il y a un petit vieux. Et je vais même rajouter « et ses petits-enfants
ouais. »
pour que le dilemme soit vraiment complet, qui arrive devant la voiture. La voiture a deux choix. Continuer sa route et écraser ou à minima renverser cette petite famille ou se cracher dans un mur, mais peut-être te tuer toi et tuer la famille. Ça devient complet. Qui est avec toi dans la voiture.
Ouais.
C'est pas toi qui es au volant. De fait, tu n'as pas le choix. Donc, ça veut dire que tout se construit au moment où on code ce que doit faire la voiture dans une telle situation. Aujourd'hui, tu es la codeuse du jour. Que choisis-tu ?
J'ai 4 heures. C'est une question très compliquée. Et souvent, c'est des questions qu'on pourrait poser même sans la voiture autonome. Juste, est-ce que tu te sauves toi ou est-ce que tu sauves les autres ? Je trouve que c'est une vraie question.
Mais du coup, là, ce qui rajoute, ça aurait été presque trop facile. C'est pour ça que je t'ai rajouté aussi ta famille dans la voiture.
Après, je pense que c'est personnel, mais non, c'est trop compliqué. Mais moi, je me vois pas vivre toute ma vie. Si je traçais la route comme ça devant, ça veut dire que je renverse une famille. Mais du coup. Je vivrai toute ma vie avec ce souvenir-là de qu'est-ce que... Imagine si j'aurais foncé dans un mur, peut-être que finalement, je serais finalement en vie et les gens sur la route aussi. Donc, je suis pas très matheuse, mais je pense que je vais prendre celle où il y a le plus de probabilité de survie. Donc, je vais foncer dans le mur et peut-être que je survivrai.
Tu comptes sur l'airbag.
Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a l'airbag, donc ça va.
C'est une sacrée difficulté, ce genre de choix.
Ouais. Ouais, mais après, je me demande si on code pas la voiture, elle pourrait pas tout simplement s'arrêter quand il y a un obstacle.
Il y a des obstacles où elle a le temps de prendre sa décision. Il y a des obstacles qui arrivent comme ça par inadvertance et c'est pour ça qu'il faut prévoir ces moments-là.
Ah oui, bah, je préfère dévier quand même.
Et est-ce que toi, d'ici 2 ans, tu as passé le permis ?
Ah ouais, j'ai peur d'ailleurs, ça me fait peur.
Tu préférerais... conduire toi et à te mettre de ta voiture ou pouvoir être dans une voiture autonome et faire autre chose en même temps. Contacter tous les gens que tu dois contacter pour la lutte contre...
Contre la pollution. Alors, ça dépend de quelle conductrice je serai dans 2 ans. Pour l'instant, j'ai toujours du mal à savoir ma droite et ma gauche. Donc,
ah oui, non, mais ça, tu sais, ça arrive les gens très bien.
oui, mais du coup... Je me demande si...
Ça reste problématique.
Oui. Et du coup, je me demande si la voiture ne conduirait pas mieux que moi, en fait. C'est toute la question. Mais finalement, je pense qu'on est tous comme ça, on a tous besoin d'avoir le contrôle. Donc, je ne sais pas si je pourrais laisser une voiture faire à ma place, même si je sais qu'elle serait plus compétente que moi. Parce que non, je préfère quand même conduire toute seule.
Tu connais le principe du grand swipe ?
Ouais.
Si tu veux pas répondre à une question ou si t'en as marre de répondre à cette question-là, tu dis swipe.
Ok.
Juliette, est-ce que tu penses qu'on peut tomber amoureux d'une intelligence artificielle ?
Non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça me paraît irréaliste. Peut-être que dans 30 ans, ça paraîtra normal, mais je trouve que l'humain, c'est très complexe et c'est beaucoup de nuances. Et je ne sais pas si une intelligence artificielle, ça recréerait toute cette nuance-là, en fait.
On peut déjà tomber amoureux sans se voir. C'est à distance. Avant, il y avait des lettres et puis maintenant, il y a des chats ou autres. Et on a quand même maintenant aussi des robots qui sont capables de répondre à des questions qu'on peut leur poser. Du coup, je repose la question de Solène. Est-ce qu'avec l'innovation et les avancées en matière d'intelligence artificielle, notamment sur les échanges, tu penses qu'on pourra tomber amoureux d'une IA? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Et puis après, si c'est possible, est-ce que c'est souhaitable?
Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce
Qu'est-ce
que...
Qu'est-ce qui te fait hésiter,
En fait, j'ai vraiment... Enfin, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, ça me paraît totalement fou, en fait. Mais... je me dis que peut-être dans le futur, peut-être que ça pourrait exister. Et est-ce que c'est souhaitable? Ça dépend. Parce que finalement, même en étant humain, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est pas gentil, qui est toxique. L'intelligence artificielle, est-ce que ça enlèverait ce côté du danger de l'amour? Je ne sais pas.
Du coup, la réflexion, c'est ce que ça apporterait. Vaut mieux que ce que parfois l'amour apporte?
Peut-être, mais après, si c'est un long fleuve tranquille, je ne sais pas si c'est préférable non plus.
À un moment, on risque de s'ennuyer.
Ouais, peut-être aussi.
Swipe.
Est-ce que filtrer, c'est se tromper?
Filtrer, mettre un filtre?
Ouais.
Se tromper. Moi, j'ai l'impression que oui. Parce que ça nous donne une fausse image de nous. Et puis ça donne une fausse image de nous aux autres. Et donc c'est pas du vrai, quoi. Donc
toi, tu en utilises?
Non.
Et tes amis?
Pas trop. Parfois c'est des filtres juste pour changer la couleur un petit peu de l'écran, mais avant au collège on en utilisait beaucoup.
Donc c'est passé de mode?
Je sais pas si c'est passé de mode ou c'est parce qu'on grandit et on prend du recul dessus, mais maintenant ça me paraît plus utile, en fait.
Sur ce sujet, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne peuvent plus se trouver jolies sans filtre. Qui en viennent même à espérer, avant même d'avoir 18 ans, de passer par de la chirurgie pour ressembler à leur filtre.
Oui, j'avais entendu ça.
Ça, c'est un vrai combat féministe.
C'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que dans la société où on est aujourd'hui, déjà l'apparence, c'est important. Mais encore plus avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que il faut absolument être parfait tout le temps. Et oui, bien sûr qu'il faut déculpabiliser et se dire que on est belle comme on est, quoi. Mais c'est vrai que c'est des messages qui sont véhiculés beaucoup sur les comptes féministes, tout ça.
Swipe.
Alors, tu nous as dit tout à l'heure que toi, t'avais jamais bloqué quelqu'un.
Non.
Sur les réseaux sociaux. Dans quelle situation tu peux imaginer qu'on puisse le faire? Ou tu pourrais, toi, le faire?
Moi, je pense au harcèlement. Aux menaces et puis au harcèlement sexuel je pense qu'il est important de rappeler que ça existe aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Avec des photos que bien souvent ce sont des hommes qui envoient des photos de leur partie génitale aux jeunes filles comme ça, et finalement c'est une question de consentement. En fait, nous, on n'a rien demandé, on n'a pas demandé ça. Et donc,
tu connais des gens à qui c'est arrivé?
Oui. J'ai pas mal d'amis à qui c'est arrivé. Ouais.
Et comment elles réagissent dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait?
Écoutez, moi, j'ai l'impression que... je trouve ça triste, mais j'ai l'impression qu'elles trouvent ça normal. Enfin, que c'est devenu presque un quotidien, quoi. Enfin, pas un quotidien, je veux dire, ça arrive pas tout le temps, mais que c'est devenu, une partie, un passage, c'est tout, quoi. C'est, tiens, j'ai reçu une photo comme ça aujourd'hui, c'est tout. Limite, elles en rigolent, quoi.
Swipe.
Est-ce que t'as l'impression que le digital fait évoluer les relations amoureuses, les relations amicales, en bien et en pas bien.
C'est sûr qu'avec le digital, on peut garder une relation à distance longtemps et même s'échanger, voilà. Par exemple, moi j'ai un exemple concret, c'est que j'ai une correspondante allemande, donc qui vit en Allemagne, chez qui j'ai passé 3 mois l'année dernière, mais depuis on s'est pas vu pendant 1 an, et là je retourne chez elle bientôt, mais on s'envoie pas des messages tout le temps, parce que même moi je suis pas dans ce truc d'envoyer des messages tous les jours, je trouve ça pas forcément utile, enfin moi j'y arrive pas en fait, mais par contre c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'elle fait dans sa vie, les nouveaux amis qu'elle se fait. On a l'impression de garder le contact et d'être proche, finalement, des gens. Donc, là-dessus, je trouve que... c'est une forme de relation amicale, finalement, parce qu'on reste quand même proche, même si on est très loin géographiquement. Après, sur les relations amoureuses, moi, j'ai pas d'exemple concret parce que ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que j'ai des amis aussi qui ont rencontré la personne qu'elles aiment sur les réseaux sociaux, via des groupes parfois de fans ou des gens qui se regroupent comme ça et qui se rencontrent. Ça, je trouve ça beau finalement parce que ça peut... on a l'opportunité de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie.
Est-ce qu'il y a une phase sombre de la pièce ?
Oui, je pense aussi.
Sans parler même des relations amoureuses, même dans les relations amicales ?
Moi, après, j'ai des relations amicales qui marchent très bien. Mais c'est sûr que dans le passé, au collège... J'ai connu pas mal d'histoires. Bon, après, c'est un peu des histoires d'enfants. Enfin, quand on est, c'est sûr que quand on est au collège et qu'on a les réseaux sociaux, on sait pas toujours bien comment s'en servir. Et on fait toujours parfois toute une histoire de petites choses. Donc, parfois c'est, oh, t'as laissé un commentaire sur ma photo. J'aime pas ça. Tout ça. Mais donc, parfois ça peut créer des disputes qui sont un peu inutiles. Je pense.
Et ça, c'est le temps qui fait qu'on le comprend.
Ouais. Ouais, ouais.
Les parents, je prolonge un peu alors que c'est souvent des questions un peu du tac au tac, mais du coup en tant que parent, il faut s'impliquer sur ces sujets-là ou au contraire laisser faire et laisser le temps.
Je pense qu'il faut s'impliquer et même je pense plus qu'il faut même se renseigner pour en discuter. Je trouve ça pas forcément cool de laisser découvrir comme ça tout seul parce que c'est quand même des milieux, les réseaux sociaux, où tout est fait pour garder notre attention, pour qu'on soit...
Addict.
Addict, voilà, c'est ça.
Et captif.
Oui, voilà. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir en discuter et d'avoir le recul nécessaire.
Finalement, il y a plusieurs ados, jeunes adultes qu'on a eu à ce micro, qui nous disaient avoir eu des cours à l'école, notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux et la prévention sur le harcèlement. Mais il faudrait aussi des cours pour les parents, d'après ce que tu dis.
Oui, oui, oui. Et puis je pense même que les parents, ils devraient se renseigner par eux-mêmes, par des documentaires. Derrière nos écrans de fumée, c'est quand même un documentaire très bien fait et très instructif. Et je pense que, oui, c'est sûr que nos parents, ils n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux. Et donc, au lieu de se dire « Ah, c'est mal, c'est pas bien », moi, j'ai pas eu Instagram avant la 3e, parce que mon père, il voulait absolument pas que je l'aie. Et en fait, j'aurais trouvé préférable qu'il se renseigne dessus plus. Parce que ce qu'on connaît pas, ça nous fait peur, c'est normal. Mais je pense qu'il faut explorer quand même.
Et tu regardais Instagram sur le téléphone de tes copines ?
Non, non, j'avais pas Instagram, c'est tout. Je me sentais un peu déconnectée, mais j'avais pas, c'est tout.
Swipe.
Alors justement, à ton avis, qu'est-ce qui agace le plus les adultes sur les réseaux sociaux ? Et qu'est-ce que, en fait, les parents, ils ont pas compris ?
Tout et rien.
Je pense que ce qui agace les parents, c'est qu'aussi qu'ils se sentent un petit peu en dehors de ça. Du coup, ils jugent facilement les pratiques qu'on a, tout parce qu'ils connaissent pas déjà. Donc, je pense qu'ils ont un jugement extérieur qui est. Enfin, ils trouvent ça superficiel. Ils trouvent que ça nous éloigne de la vraie vie, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais je pense qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des gens bien sur les réseaux sociaux, quand même. Même s'il faut se méfier, il y a quand même des gens bien. Voilà.
Il y a, et c'est normal qu'il y ait des craintes et des peurs quand tu vois aussi des reportages sur des gamins qui mettent fin à leur jour parce que cyberharcèlement, il y avait déjà le harcèlement à l'école qui a eu de tout temps, mais maintenant ça prend une dimension aussi qui est beaucoup plus importante et j'ai l'impression qu'il y a des conséquences qui sont aussi plus importantes. Ou des règlements de compte qui partent parce que c'est poussé sur les réseaux sociaux, des vidéos, etc. Donc, ça renforce un peu la brutalité, la violence, et on répond à la violence par la violence. Bref, tout ça pour dire comment on prend ça en compte aussi.
Comment on prend ça en compte en tant que jeunes.
Ouais.
Tant qu'on en est conscient, on peut faire attention par la suite. Je pense que le tout, c'est de savoir que ça existe. Et une fois qu'on sait, on peut éviter certaines situations. Après, pour le harcèlement, c'est sûr que c'est pas notre faute si ça arrive. Et moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Et c'est un sujet très grave. Je pense qu'il faut en parler quoi.
Tout à l'heure, tu parlais des groupes de jeunes qui, dès qu'il y avait une phrase un peu déplacée, se surgrouper pour dire bon, « c'est pas normal de dire ça ». Est-ce qu'il y a la même chose aujourd'hui pour un gamin qui est harcelé et tout un collectif qui sont pas forcément les leaders d'opinion de l'école, mais qui vont dire « non, mais ça, c'est plus possible ». Ou est-ce que, nous à l'époque, il y en avait qui se faisaient frapper et puis beaucoup aussi se taisaient.
Bah ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, tout est exacerbé en fait. Et donc la violence l'est aussi. Et j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, quand c'est les gens violents qui s'expriment, ils peuvent le faire presque en toute impunité un petit peu, puisque il n'y a personne pour les contrer vraiment. Et j'ai l'impression aussi que dans ces cas-là, les gens plus gentils sont moins entendus. Parce que finalement, la violence, ça se voit plus.
Swipe. Un swipe, mais avec une transition toute trouvée. La question de l'anonymat est beaucoup débattue en ce moment. T'en penses quoi?
Il
y a du pour et du contre, hein, encore.
Oui, ouais, oui, c'est toujours complexe. Des questions nuancées. Mais j'aime bien. Mais... Je sais que si jamais on dénonce une personne sur les réseaux sociaux, la police peut la retrouver même avec son pseudo. Enfin, j'ai entendu ça, je sais pas. Je pense que c'est vrai.
C'est vrai, mais sur tous les signalements, il y a très peu de...
Ah oui.
En fait, ma question, je vais la pousser. Est-ce que si les gens communiquaient en leur nom, tu penses qu'il y aurait moins de violence?
Oui, je pense qu'il y aurait moins de violence, mais il y aurait aussi moins de gens qui oseront s'exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de gens timides, même moi hein, au début.
C'était quoi ton blaze, ton pseudo? Je sais pas comment on dit aujourd'hui, je suis vieux.
Ah, moi je m'appelle Juliette avec mes initiales pour mon nom de famille. Mais donc oui, moi je suis... Enfin, j'ai pas de pseudo. Mais c'est sûr qu'il y a des gens timides qui... savent même des comptes, je pense à des poètes par exemple, qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Moi j'en connais autour de moi qui ont un compte et qui s'expriment là-dessus, qui oseraient pas le faire en leur nom parce qu'au lycée on se moquerait d'eux ou alors on reprendrait leurs phrases devant eux, tout ça. Donc ils s'expriment via des pseudos.
C'est une manière aussi de pousser à la créativité.
Oui, oui, oui aussi, et d'être plus libre.
Swipe. Juliette, tous tes engagements, tu les as aussi faits dans le cadre d'une ONG qui s'appelle Sapiens,
ouais,
et dont on n'a pas parlé encore.
Non.
Je me dis que c'est le moment.
Oui, c'est le moment. Je ne sais jamais comment décrire Sapiens en une phrase, parce que c'est tellement complet, mais je vais vous donner déjà le nom du programme. Ça s'appelle l'école de l'estime de soi et de la transformation du monde. Et en fait...
Beau programme.
Ah oui, c'est déjà un beau programme. Donc c'est une ONG qui a sélectionné des jeunes pendant le confinement dernier.
Premier confinement.
Oui, voilà, le premier confinement. Le premier.
Parce que maintenant, tu sais, il faut les numéroter.
Ouais, c'est ça. Et voilà.
Les a touchés via Instagram, je crois.
Oui, oui, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Encore une opportunité venue d'Instagram. Pendant le confinement, je pense qu'on a tous été beaucoup sur les réseaux sociaux, à scroller comme ça, notre écran. Et moi, je m'ennuyais un soir comme ça et j'ai trouvé une publicité. Pour l'ONG Sapiens.
Trouvé, c'est elle qui t'a trouvé.
Et là, j'ai eu une illumination dans ma tête. Je me suis dit, oh, parfois, c'est de l'intuition un peu. Et je me suis dit dès le début que ça allait m'apporter beaucoup de choses. Mes parents ont eu peur parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et en plus, ça parle à des jeunes. Donc, ils ont cru que c'était une secte, en fait. Oui.
Nicolas, le fondateur, n'est pas trop un gourou.
Non, non, non. Ils s'en sont rendus compte par la suite parce que, donc avant de s'engager là-dedans, on a eu des visios, on a pu rencontrer, donc du coup, Nicolas, le fondateur de Sapiens. Et puis finalement.
Et l'équipe pédagogique aussi.
Oui, voilà, voilà. Et puis finalement, on a été réunis 14 jeunes qui ont tous une volonté de s'engager pour quelque chose. Donc là, on va être réunis pendant 4 semaines sur une année. Ça s'étale sur une année. Et donc, c'est des semaines de stage. J'en ai déjà fait 2. Et là, cet après-midi, je retourne pour une 3e. Et dans ces semaines, on apprend tellement de choses. Il y a autant une partie gestion des émotions et bien-être pour soi, donc pour le corps. Après, il y a une partie géopolitique, comprendre le monde, comment c'est fait, comment est fait notre vision du monde. Ça nous fait beaucoup réfléchir. Une partie sur savoir gagner en estime de soi et savoir parler en public. Moi, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus. Du coup, c'était juillet dernier, la première semaine. Ça fait 1 an et j'ai beaucoup progressé. Et donc, oui, et ça nous aide aussi, ça nous apporte un soutien dans les projets qu'on va mener.
Et vous avez des experts aussi qui viennent vous rendre visite.
Oui, des experts. Bah oui, d'ailleurs, là, la semaine qui vient, on va avoir la chance de rencontrer Yann Arthus Bertrand, qui est un grand documentariste et qui nous accorde 1 heure de son temps juste pour nous. Ce qui
va pouvoir donner quelques tuyaux pour la enquête de vague.
Et ouais. Et puis aussi, il y a la directrice de change.org qui va venir nous voir parce qu'en fait, la pétition, on l'a fait. Donc, mes amis avec qui je l'ai fait, c'est des amis de Sapiens. Et donc, Nicolas, qui a beaucoup d'audace, il est resté en contact avec la manageuse de change.org. Et de fil en aiguille, il a réussi à contacter la directrice française de change.org. Du coup, elle vient nous voir aussi. Donc ouais, ça amène plein d'opportunités. Et c'est fou parce que ça vient d'Instagram, quoi. Juste un post.
Et d'ailleurs, j'invite aussi nos auditeurs à réécouter les podcasts de Alia et Abdallah, oui, qui font aussi partie de cette ONG.
Oui, voilà.
Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire, Juliette, à la jeune génération par rapport à l'usage du digital et des réseaux sociaux ?
J'aurais envie de dire, ne vous bloquez pas avec le regard des autres et faites ce qui vous fait vibrer, en fait. Si vous aviez envie d'écrire des poèmes, bah, sur Instagram, vous pouvez écrire des poèmes et les gens peuvent les lire et c'est extraordinaire. Si vous avez un projet, sur Instagram, ça peut prendre de l'ampleur et ça peut toucher plein de gens. Donc finalement, c'est sûr que on a au début la barrière du qu'est-ce qu'on va penser et surtout du cercle d'amis ou même du lycée, voilà, où les gens du lycée vont forcément être au courant de ce que vous allez faire et voilà, vont en parler, peut-être se moquer de vous, mais c'est tellement une belle opportunité et ça peut amener tellement de choses que faites ce que vous avez envie de faire, en fait.
Et à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire connaître ce podcast ?
Moi, je crois beaucoup à la solidarité dans le même milieu. Donc, je pense que vous devriez peut-être faire des partenariats avec d'autres gens qui font d'autres podcasts.
T'as des idées ?
Je connais pas beaucoup de podcasts, j'en écoute pas beaucoup, donc j'ai pas trop d'idées, mais je pense que...
T'écoutes surtout Philosophie.
Ouais, voilà, Philosophie, et j'écoute aussi Nouvel Oeil, qui est un beau podcast.
Carrément. On te laisse choisir le tweet de l'émission.
Le tweet de l'émission, attendez, j'ai pas d'inspiration. C'est trouver les opportunités.
Ben Juliette, merci beaucoup pour cet échange. Tu termines la première saison de Philosophie.
Oh, c'est vrai ?
Ouais.
On voulait finir en beauté.
On avait commencé cette saison avec une Juliette. On termine cette saison avec une autre Juliette. En tout cas, je souhaite à tous nos éditeurs un très bel été. Et n'oubliez pas d'écouter les 13 épisodes de cette première saison de Philosophie. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à nous donner les 5 étoiles qui nous permettent de gagner la guerre des algorithmes. On se donne rendez-vous à la rentrée avec Marilyn et Thomas.
Si Marilyn veut bien.
Salut Juliette.
Salut.